Chapitre 16. 2 heures plus tard, je me sens nettement mieux, du moins physiquement. S'il ne me restait pas cette migraine, je pourrais même croire que j'ai rêvé ce malaise. Maître Ruellan a dû retourner au palais de justice pour suivre le cours des audiences. Elle nous a indiqué il y a quelques dizaines de minutes qu'il restait encore 3 dossiers avant le nôtre. Elle nous attend d'ici 17 heures. Tu le savais, maman? Demandai-je tout en boutonnant les pans de ma veste. Je savais quoi? Que le conducteur était en réalité une conductrice? Une femme? Oui, bien sûr que je le savais. Tout était écrit dans le dossier, pourquoi? Elle semble sincèrement surprise par ma demande. Et ça ne te gêne pas? Tu trouves que ça ne change rien? Pourquoi est-ce que le sexe du conducteur changerait quelque chose? Je ne trouve rien à répondre. Je ne sais pas comment expliquer ce que je ressens. Pourtant, ça change tout. Il est à peine 16 heures lorsque nous sommes de retour au tribunal. Notre avocate, prévenue de notre arrivée par ma mère, nous attend sur le parvis. Comment vous sentez-vous, Madame Galland?
Mieux?
Beaucoup mieux, merci. Il faut que je vous prévienne que le juge n'accordera pas, le cas échéant, une nouvelle suspension d'audience. À la moindre alerte, cette fois-ci, il renverra le dossier. Je peux vous dire que nous avons déjà eu beaucoup de chance qu'il accepte de passer ce dossier en dernier. J'ai bien compris, réponds-je sèchement. Elle et moi n'avons sans doute pas la même définition du mot « chance ». Être ici aujourd'hui est loin d'être une chance. Que c'est-elle de la souffrance? Que c'est-elle de la douleur? Lorsque sera venu pour elle le temps de parler devant les juges, elle utilisera probablement tous les artifices nécessaires sur un ton affligé de quelqu'un qui sait. Mais au fond, l'agacement que je perçois chez elle en raison de la désorganisation de sa journée me prouve qu'elle ne sait rien. Dans la salle des pas perdus, alors qu'il y a des dizaines de personnes, je ne vois qu'elle. Elle est assise à côté de son avocate, les épaules affaissées, le visage pâle. Est-ce qu'elle perçoit ma présence ou est-ce un hasard? Toujours est-il qu'alors que je la fixe, elle lève les yeux vers moi. Refusant ce que j'y lis, je détourne la tête presque aussitôt. Comment vous sentez-vous, Madame Galland? Me demande à son tour le juge 1 heure plus tard et alors qu'il ne reste plus que nous dans la salle. Si vous n'êtes pas totalement remise, comme votre conseil vous l'a sans doute expliqué, il est encore possible de demander un renvoi. Je suis vraiment désolée pour tout à l'heure, monsieur le juge. Je me sens beaucoup mieux. J'hésite à ajouter qu'il est grand temps d'en finir et qu'elle doit maintenant payer. Mais je n'en fais rien. À nouveau, le juge appelle la prévenue. À nouveau, il lui fait lecture des faits qui lui sont reprochés. Les battements de mon cœur sont rapides. Je suis incapable de maîtriser les tremblements de ma jambe droite, mais je tiens bon. Madame Jamin, pouvez-vous nous expliquer les circonstances de cet accident? J'étais sur le parking de mon lieu de travail. Je m'apprêtais à monter dans ma voiture après ma garde de nuit. Je suis infirmière en service de réanimation. Lorsque j'ai reçu un appel du centre périscolaire où mon mari dépose ma fille chaque matin avant de prendre son train. Ma fille venait de faire une chute et, en tombant, sa tête avait heurté violemment un coin de table. Elle était ouverte et apparemment en état de choc. Ils savent que je suis infirmière, alors ils m'ont appelée. Le centre n'est pas très loin de l'hôpital dans lequel je travaille. Je leur ai dit que j'arrivais tout de suite. J'étais inquiète, et sans doute éprouvée par ma garde au cours de laquelle nous avions perdu plusieurs patients. Des commotions cérébrales, j'en vois tous les jours ou presque. Je ne sais que trop bien combien cela peut être grave. Je ne me suis pas rendu compte que je roulais si vite. Je ne faisais pas attention, je ne pensais qu'à être auprès de ma fille, Je n'ai pas vu le stop. Je n'ai pas vu la voiture qui arrivait sur ma droite, c'est entièrement de ma faute. Sa voix se brise. Elle sort de sa poche un mouchoir qu'elle utilise pour essuyer ses yeux. Je la regarde faire sans un mot, alors que j'ai envie de hurler. Les différentes analyses réalisées à la suite de l'accident, poursuit le juge, se sont révélées négatives. Vous n'étiez pas sous l'emprise de l'alcool, ni sous celle d'aucune autre substance. Je ne bois pas. Je n'ai jamais aimé le goût de l'alcool. Très bien. Je crois que les circonstances de l'accident, bien que tragiques, sont assez simples et claires. Avez-vous quelque chose à ajouter, Madame Jamin, avant que la Cour ne se retire pour délibérer? Je... hésite-t-elle. Je voudrais dire combien je suis dévastée depuis cet accident. Je ne dors plus. Je prends des antidépresseurs. Je suis en arrêt parce que incapable de faire correctement mon travail. Savoir que je suis responsable de la mort de deux personnes, dont une petite fille qui avait le même âge que celui de ma fille aujourd'hui. Je sais combien Madame Galland et sa mère doivent souffrir. Une bouffée de colère me suffoque. Comment peut-elle oser dire ça, alors que d'ici une heure, elle retrouvera sa fille, la serrera dans ses bras en lui demandant comment s'est passée sa journée. Je tourne la tête vers ma mère et ce que je déchiffre sur son visage m'horrifie et ravive ma nausée. Elle est touchée par les mots de cette femme. Je comprends soudain pourquoi le fait que ce soit une conductrice et non un conducteur change tout. La compassion. Le visage de ma mère n'aurait rien reflété de tel si à la barre nous avions un homme roulant trop vite, ayant peut-être bu un ou deux verres d'alcool, ne se préoccupant de rien d'autre que de sa petite personne. Il aurait été plus facile de ne pas voir l'être humain derrière le salaud. Alors que là, il s'agit d'une femme. D'une mère. Je refuse de ressentir de la pitié pour elle. En tuant les deux personnes les plus importantes au monde pour moi, elle en a perdu le droit. Maître Ruellan, je vous laisse la parole pour les parties civiles. Merci, monsieur le juge. Si les faits qui viennent de nous être relatés avec beaucoup de trémolo dans la voix sont constitutifs d'un accident, il n'en demeure pas moins que plusieurs manquements ont été commis et qu'ils ont causé la mort de deux personnes qui n'avaient d'autre tort que de se trouver en cet endroit, à cet instant, ce jour-là. Le visage de Xavier, le sourire de Meryl, toutes ces soirées passées tous les trois à rire, à jouer à des jeux de société. Ces après-midi, à écouter Meryl chanter dans sa chambre, à répéter inlassablement le même couplet jusqu'à ce que l'intonation lui convienne parfaitement. La douce chaleur de son petit corps pelotonné contre le mien, lorsqu'elle se glissait dans mon lit après avoir fait un cauchemar. Certains souvenirs sont encore très nets. D'autres perdent de leur clarté avec le temps et laissent la place à des émotions plus diffuses. C'est la raison pour laquelle nous réclamons, à titre de dommages-intérêts, la somme de 50 000 €, conclut Maître Ruellan. Je me rappelle vaguement avoir entendu ma mère mentionner ce chiffre. 1 € ou 50 000, peu m'importe. Aucune somme ne me ramènera ni ma fille, ni mon frère. Aucun argent n'atténuera la colère que je ressens en présence de cette femme. Merci, maître. La parole est au ministère public. Un type se lève sur ma gauche, l'air grave et sérieux. Causer la mort de deux personnes n'est jamais un acte anodin et ne doit jamais le devenir. Madame Jamin nous l'a dit elle-même, elle n'a pas fait attention. Ni à la vitesse, ni au stop, ni à la voiture qui arrivait. Or, faire attention, c'est précisément ce que l'on attend d'un conducteur de voiture. Parce que c'est cette attention qui permet d'épargner des vies, à commencer par la sienne. Cela étant dit, nous sommes malgré tout dans le cadre d'un accident causé par une conductrice sans antécédent et qui n'était sous l'emprise d'aucune substance de quelque nature. À ce titre, il nous semble qu'une certaine clémence ne serait pas choquante, et c'est pourquoi le ministère public requiert une peine de 6 mois d'emprisonnement entièrement assortie d'une période de sursis. Comme je l'ai dit en préambule, pour le ministère public, la mort de deux personnes n'est jamais anodine, et la douleur des victimes ici présentes est là pour en témoigner. Pour autant, cela ne doit pas conduire à sanctionner un comportement à l'excès. Je vous remercie.
6 mois. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Mais ce réquisitoire, c'est comme un coup dans l'estomac. 6 mois. Pour avoir ôté la vie de deux personnes. Seulement 6 mois. Rien que 6 mois. Et puis après, il se passe quoi? Chacun reprend une vie normale, c'est ça?
On tourne la page et on fait comme si de rien n'était. On commence à réfléchir à Noël et aux cadeaux qu'on va offrir.
Pour elle, peut-être. Sauf que pour moi, dans 6 mois, rien n'aura changé. Les absents seront toujours morts et les présents toujours en pleurs.
Le tribunal se retire pour délibérer. L'audience reprendra d'ici 1 heure.
Annonce le juge avant de se lever. Ça va aller, ma chérie ? Me demande ma mère 3 minutes plus tard, alors que je n'ai toujours pas bougé de mon banc. Non, ça ne va pas aller. Comment voudrait-elle que ça aille ? Ma fille unique et mon frère jumeau sont morts. Et ça, c'est la réalité pour le reste de ma vie. Alors que pour celle qui les a tués, ce ne sera l'affaire que de quelques mois. D'une ligne sur le casier judiciaire qui n'y paraîtra d'ailleurs plus dans quelques années. Je ne voulais pas venir. Je ne voulais pas assister à tout ça, à cette mascarade judiciaire. Je savais qu'il n'y aurait rien de bon pour moi dans cette salle d'audience.
Tu veux aller prendre l'air ?
Non, je ne veux pas aller prendre l'air. Parce qu'il n'y a plus que moi pour le respirer, ce foutu oxygène, et que chaque inspiration me le rappelle douloureusement.
Dis-moi quelque chose, je t'en supplie.
Je tourne la tête vers ma mère dont les traits crispés trahissent la sincère inquiétude.
Allons-nous-en.
Comment ça ? Quittons cet endroit. Tu les as entendus tout à l'heure ? Xavier, Meryl.
Ils s'en moquent.
Tout ça est bien trop grand pour leur foutu code pénal. Il n'y a plus rien pour nous ici.
Mais tu fais ce que tu veux, maman. Je ne t'impose rien.
Mais en ce qui me concerne, je ne tiens pas à rester plus longtemps ici. Je ne tiens pas à entendre une nouvelle fois énoncer à voix haute le peu de valeur que pouvait avoir leur vie. Joignant le geste à la parole, je rassemble mes affaires et me lève brusquement, reléguant aussi loin que possible les vertiges et la nausée qui m'assaillent aussitôt. Puis, sans me retourner, alors même que je sais que ma mère ne me suivra pas, je quitte le palais de justice.